je dirais, et même déjà bébé, même avant de parler, vous me direz, il n'a pas de comparaison. Il n'a pas de comparaison. Il n'y a pas lui à faire une comparaison. Il ne parle pas, il ne se dit pas, je suis dans une prison, où mon père dirige la prison. Ce qu'il éprouve, c'est une certaine constellation très, 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 très impressionnante, qui est celui d'une puissance sur un endroit noir et fermé. Et peu importe qu'il ne compare pas, qu'au besoin, il ne sache même pas qu'il y a d'autres endroits. Mais, je dis, ça va de soi que tout petit déjà, il ne vit pas simplement son père comme père, il vit son père sous la puissance, père, et E.T. Tout ça étant indissociable, père et gardien de prison. Bon, est-ce que ça compte? Bon, ensuite, dans la mesure où Nazoc personnellement développe à certains moments un véritable délire, ce délire il consiste en quoi? C'est pas simplement un délire, c'est aussi une politique. Il vit dans l'empire austro-hongrois, Nazoc. Eh bien, toute sa vie, c'est une espèce de réflexion, mais de réflexion active et de participation au problème des minorités dans l'Empire autrichien. Et qu'est-ce que c'est que ces thèmes obsessionnels? Ces thèmes obsessionnels, c'est l'amour courtois, avec les épreuves que l'amoureuse s'impose, et le rôle des femmes dans les minorités. Comme quoi les mouvements de minorité, Nazoc est un de ceux qui l'ont dit le plus profondément, les mouvements de minorité sont profondément animés par des femmes. Il y a tout ça qui se mêle dans et pour constituer cette espèce de masochisme qui délire les minorités, qui délire le Moyen-Âge au niveau de l'amour pour toi et qui délire le monde des prisons. Je dis, si vous ramenez ça à un problème de Nazoc enfant par rapport à son père et sa mère, ben, autant dire qu'il n'y a plus rien à dire. C'est grotesque. Je vous demande, chaque fois que vous êtes devant soit la transcription écrite, soit devant l'audition orale de quelque chose de délirant, vous verrez que ce qui est investi, c'est fondamentalement, c'est-à-dire ce qui est investi par le désir, c'est fondamentalement un champ historico-mondial. Et j'appellerai ligne de fuite les lignes qui relient le délirant à telle direction ou à telle région du champ historico-mondial. Alors si c'est comme ça, j'essaie juste de dire processus. Peut-être est-ce que c'est un peu plus clair. Quelque chose nous arrive, quelque chose nous emporte. Toute la question d'une analyse, qui ne serait pas une psychanalyse, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle ligne traces-tu ? Je veux dire, pour moi, l'analyse, ça ne peut être, ça n'est ni une interprétation, ni une opération de signifiance. C'est un tracé cartographique. Si vous ne trouvez pas les lignes qui composent quelqu'un, y compris ces lignes de fuite, vous ne comprenez pas les problèmes qu'il pose ou qu'il se pose. Or, en effet, des lignes de fuite, vous comprenez, ce n'est pas uniforme. Hein. La manière dont quelqu'un ligne de fuite, même si c'est une opération ambiguë, je dis, c'est ça le processus. C'est ça ce qui nous emporte. Évidemment, ça veut dire que pour moi, les lignes de fuite, c'est ce qu'il y a de créateur chez quelqu'un. Les lignes de fuite, ce n'est pas des lignes qui consistent à fuir, bien que ça consiste à fuir. Mais c'est vraiment la formule que j'aime beaucoup d'un prisonnier américain qui lance le cri « Je fuis, je ne cesse pas de fuir, mais en fuyant, je cherche une arme. » Je cherche une arme, c'est-à-dire je crée quelque chose. Finalement, la création, c'est la panique, hein, toujours. Je veux dire, c'est sur les lignes de fuite qu'on traîne. Alors, parce que c'est sur les lignes de fuite qu'on n'a plus aucune certitude, hein, que les telles certitudes se sont écoutées. Alors je dis bien, voilà, le processus. Mais, et là je pense répondre plus directement enfin à ta question, c'est que, je dirais, précisément parce que ces lignes ne préexistent pas au tracé qu'on en fait. Je dirais à la fois, ces lignes ne préexistent pas au tracé qu'on en fait, et puis toutes les lignes ne sont pas des lignes de fuite. Hein. Il y a d'autres types de lignes. Alors, une année, ici, on s'était consacré à ça. Je crois qu'on a passé pas loin d'un an à étudier les sortes de lignes qui composent quelqu'un. Qui composent quelqu'un au sens individu ou groupe, dans un champ social ou dans un champ historico-mondial. À la limite, on distinguait comme plusieurs types de lignes. On s'était beaucoup intéressé à une nouvelle splendide, parce que là aussi le délire n'est pas loin, une nouvelle très belle de Fitzgerald, où il distingue, lui, il a tout un langage, tout un vocabulaire, où il distingue les grandes ruptures, les petites fêlures, non pas les grandes ruptures, les grandes cassures, les petites fêlures et les vraies ruptures. Et finalement, on vit de ça. Et il essaie de montrer, il montre très bien que c'est trois sortes de lignes. Je crois qu'il y a toujours chez tous les gens ces trois sortes de lignes, mais les unes qui avortent, les autres qui... Alors c'est presque une analyse des lignes, presque au sens de lignes de la main, sauf que c'est pas dans la main ces lignes. Moi je comprendrais rien à quelqu'un si je peux pas le traduire dans une espèce de dessin linéaire. Avec, il faudrait trois couleurs, au moins trois couleurs, en fait beaucoup plus, et tracer les lignes dans lesquelles il se trouve. Et comment il débrouille. Hein. Je dirais, oui, vous comprenez, toutes ces lignes, alors qu'ils s'embrouillent terriblement. Vous avez des lignes, je proposais de les appeler des lignes de segmentarité dure. Et on a tous des lignes de segmentarité dure. Il ne s'agit pas de dire les unes sont mauvaises et les autres bonnes. Il s'agit de se débrouiller avec toutes ces lignes. Des lignes de segmentarité dure, pour moi, c'est des choses que tout le monde connaît bien. Mais déjà, il y a plein de cas comme ça. Il y a des cas très très différents dans ce premier paquet de lignes. Nous sommes... je voudrais vraiment presque arriver à me concevoir et à concevoir les autres comme uniquement des paquets de lignes abstraites. Alors, ça ne représente rien, ces lignes, mais elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Et pour moi, la schizoanalyse, c'est uniquement cela. C'est la détermination des lignes qui composent un individu ou un groupe. Le tracé de ces lignes. Or, ça concerne tout l'inconscient. Ces lignes, elles ne sont pas immédiatement données, ni dans leur importance respective, ni dans leurs inférences. C'est pour ça que, plutôt qu'une histoire, je rêve d'une géographie, c'est-à-dire d'une cartographie. Faire la carte de quelqu'un. Alors, oui, je dis, qu'est-ce que c'est la segmentarité dure ? Oui, on est segmentarisé de partout. On est segmentarisé de partout. C'est une première sorte de ligne qui nous traverse. Je veux dire, on est d'abord segmentarisé immédiatement. Le travail, le loisir, les jours de la semaine, le jour, la nuit, etc. Vous voyez ? On ne sait pas, c'est une ligne à segments. Le travail, le jour de vacances, le dimanche, enfin du type métro, boulot, etc. C'est une espèce de segmentarité. Il y a toute une bureaucratie de la segmentarité. Tel bureau, on va, quand vous allez d'un bureau à un autre pour avoir le moindre papier, on voit bien ce que c'est que la segmentarité sociale. On vous envoie d'un segment à un autre. Mais aussi, il y a une segmentarité encore plus troublante, plus difficile. Hein. C'est dire que déjà la ligne, je ne pourrais pas dire qu'il y a une ligne de segmentarité, et ce n'est pas la même pour chacun. Ils sont extrêmement variables d'après les métiers, d'après les modes de vie. On est segmentarisé comme des vers, quoi. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas bien, ça dépend ce que vous en tirez, mais c'est une première composante de vos lignes, ça. Un segment, un autre segment, un autre segment. Ah là, je rentre, ah, je suis chez moi, ouf, ma journée est finie. Ah, qu'on ne vienne pas m'embêter, passer d'un segment à un autre. Il y a ceux, remarquez déjà, qu'il y a ceux qui ont assez peu, où cette ligne est comme affaiblie. Affaiblie. Ils sont très séduisants, ceux-là, qui ont une segmentarité très affaiblie. On a l'impression qu'ils sont trop mobiles, qu'ils passent d'un segment à l'autre beaucoup plus vite que d'autres, qu'ils ont une segmentarité beaucoup plus souple. Bon. Mais je dis, en gros, il y a, dans ce domaine de la segmentarité, il y a déjà tout un paquet de lignes, et pas une seule, parce que vous comprenez qu'elle est très orientée du point de vue du temps, la ligne de segmentarité. notamment c'est d'après les sédimentalités que se fait la triste évolution de la vie, par exemple. On vieillit, jeune, vieux. C'est une autre segmentarité, vous voyez qu'elle se recoupe, toutes ces segmentarités, hommes, femmes. Là les hommes, là les femmes. C'est segmentarisé tout ça. Jeune, vieux. Alors, j'étais jeune, je ne le suis plus. Ah, j'avais du talent, mon talent, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous reconnaissez le ton, mais ce n'est pas du tout un ton plaintif chez lui, le ton de Fitzgerald. Pour ceux qui l'ont lu, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes de perte de jeunesse, perte de beauté, perte de talent qui se fait sur cette ligne? Mais comment on va pouvoir le supporter, ça? Bon, tout ça. C'est là, il y a toujours des ruptures, des cassures sur cette ligne. On passe d'un segment à un autre par une sorte de cassure. Il y a des gens qui supportent, c'est déjà très différent cette ligne pour chacun, ou pour les groupes. Les groupes, mais ils donnent tout un statut déjà à cette première ligne. Et puis, il y a une autre sorte de ligne. On sait bien qu'en même temps, c'est pas que la première soit une apparence, mais on sait bien qu'en même temps se passe d'autres choses. Qu'il n'y a pas simplement les hommes là et les femmes là. Il y a la manière dont les hommes sont des femmes, la manière dont les femmes sont des hommes. Il y a des trucs beaucoup plus... une ligne beaucoup plus... beaucoup plus à la lettre, beaucoup plus moléculaire. Les lignes où c'est beaucoup moins apparemment tranché que... Quelqu'un fait un geste, hein. Quelqu'un dans le cadre de sa profession fait un geste et j'ai comme une impression de malaise. Les romanciers, ils ont toujours beaucoup joué là-dessus. J'ai une impression de malaise, je me dis, tiens, mais ce geste, il n'est pas adapté. D'où ça vient? Il paraît un peu incongru. Il vient d'ailleurs, il vient d'un autre segment. Là, se fait comme une espèce de brouillage de segments. C'est plus une ligne de segmentarité préétablie, en quelque sorte. C'est une ligne de segmentation fine en train de se faire, des petites poussées. Petit truc, une petite grimace qui vient d'où? Bizarre. Une ligne qui ne procède plus par cassure, espèce de binarité, dualisme, homme-femme, riche-pauvre, jeune-vieux, mais qui procède par, Fitzgerald dit, petite fêlure. Des petites fêlures comme une assiette qui ne se cassera que à l'issue des petites fêlures, mais c'est par le même chemin, celui de la grande cassure et celui des petites fêlures. Alors finalement, on s'aperçoit qu'on a vieilli sur la première ligne, alors que vieillir est une espèce de processus qui s'est continué longtemps sur la seconde ligne. Le temps des deux lignes n'est pas le même. Voilà un second type de ligne. Qui, à son tour, est très divers. C'est un second paquet de lignes. Et puis, il y a des lignes, encore une fois, d'un autre type, les lignes de fuite. Les lignes que l'on crée, sur lesquelles on crée. Parfois, on se dit, mais elles sont comme ensablées, elles sont comme bouchées. Parfois, elles se dégagent. Elles passent par de véritables trous, elles ressortent. Parfois, elles sont foutues. Les deux autres types de lignes les ont mangées. Et puis, elles peuvent toujours être reprises. Qu'est-ce que c'est que ce troisième type de ligne? Supposons que ce soit. Je dis, faire une schizoanalyse de quelqu'un, ce serait arriver à déterminer ses lignes et le processus de ses lignes. Or, pour répondre enfin à la question, une chose très simple. Appelons schizophrénie, c'est donc le tracé des lignes de fuite. Et ce tracé des lignes de fuite est strictement coextensif au champ historico-mondial. Moi, petit bourgeois français qui ne suis pas sorti de mon pays, qu'est-ce que je délire encore une fois? Je délire l'Afrique et l'Asie. Acharnement. Et pourquoi? Parce que c'est ça le délire. Il n'y a pas besoin d'être fou pour délirer. Alors, si j'appelle ça le processus, c'est ce flux qui m'emporte dans le champ historico-social d'après des vecteurs. Appelez ça le voyage à la manière de Led et de Cooper, je n'y vois pas d'inconvénient. En effet, je peux aussi bien délirer la préhistoire. Je peux très bien avoir affaire avec la préhistoire. De toute manière, c'est ça qu'on décrit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je dis chaque type de ligne a ses dangers. Moi, je crois que le danger propre à la ligne de fuite et aux lignes de fuite, à ces lignes de délire, c'est quoi? C'est en effet une espèce de véritable effondrement. Qu'est-ce que c'est l'effondrement? Le danger propre aux lignes de fuite, et il est fondamental, c'est le plus terrible des dangers, c'est que la ligne de fuite tourne en ligne d'abolition, de destruction. Que la ligne de fuite, qui normalement et en tant que processus, est une ligne de vie, et doit tracer comme de nouveaux chemins de la vie, tourne en pure ligne de mort. Et finalement, il y a toujours cette possibilité-là. Il y a toujours cette possibilité-là. Que la ligne de fuite cesse d'être une ligne de création et tournant, comme se mettre à tournoyer sur elle-même et s'enfonce dans ce qu'on appelait une année un trou noir. C'est-à-dire devient une ligne de destruction pure et simple. Je disais, c'est ça qui, à mon avis, explique un certain nombre de choses. Ça explique, par exemple, la production du schizophrène en tant qu'entité clinique. Le schizophrène en tant que malade, et je crois que le schizophrène est fondamentalement et profondément malade, c'est ça. C'est celui qui, saisi par le processus, emporté par son processus, par un processus, il tient pas le coup. Il tient pas le coup. C'est trop dur. C'est trop dur. Vous me direz, il faudra encore dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Au besoin, rien ne s'est passé. Je veux dire, rien ne s'est passé d'assignable. Il y a un texte merveilleux de Chestov à propos du fameux écrivain russe Tchekhov. Chestov n'aime pas Tchekhov. Il a tort. Il l'aime pas, il le déteste même. Et il dit la raison pour laquelle il n'aime pas Tchekhov. Il dit, vous comprenez, quand vous lisez Tchekhov, vous avez toujours l'impression que quelque chose s'est passé et vous pouvez même pas dire quoi. À savoir, tout se passe comme si Tchekhov avait tenté quelque chose qui exigeait même pas un effort considérable, et puis comme si c'était foulé le pied, quoi, et qu'il en ressort incapable de quoi que ce soit. Que pour lui, Tchekhov, le monde est fini, et qu'il n'est plus que amertume. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un craque? Vous me direz, craquer à la manière de Tchekhov, c'est pas mal. Peut-être qu'on peut avoir une toute autre vision de Tchekhov. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un craque, effectivement? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu supporter? En tout cas, je dis, c'est là, et c'est à ce niveau, qu'est-ce que quelqu'un n'a pas pu supporter? C'est ce quelque chose qu'il n'a pas pu supporter qui marque, il me semble, le tournant de la ligne de fuite qui cesse d'être créatrice et qui devient ligne de mort pure et simple. Et il y a deux manières de devenir ligne de mort. C'est devenir ligne de mort pour les autres, et souvent les deux sont très liés, et ligne de sa propre mort. Et finalement, pourquoi c'est lié pour ça, c'est compliqué, mais je prends des cas. Bon, comment se fait-il que, par exemple, je prends des cas là toujours littéraires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans des cas célèbres comme Kleist? Kleist qui vraiment est pris par un processus. Ce processus lui donne toutes sortes de signes très schizophréniques, le bégaiement, les stéréotypies, les contractures musculaires, tout ça. Mais tout ça, pendant longtemps, nourrit un style. Et un style, c'est pas simplement quelque chose d'esthétique. Un style, vous vivez comme vous parlez, ou plutôt vous parlez comme vous vivez. Un style, c'est un mode de vie. Et ben, avec tout ça, il invente un style, une espèce de style qui fait qu'une phrase de Claes est irreconnaissable entre toutes. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça débouchera sur une idée alors très délirante, qui était là dès le début chez Claes, à savoir comment se tuer à deux. Comment se tuer à deux? Qu'est-ce qui fait pour que sa ligne de fuite, il traverse l'Allemagne, il traverse on voit très bien ce que c'est que le processus dans le cas de Claes. Il saute à cheval et il traverse l'Allemagne. C'est le grand mouvement romantique allemand. Vous me direz, c'est pas seulement ça le processus. D'accord, c'est pas seulement ça le processus. Disons que ça, c'est déjà le signe géographique du processus. Il y a des gens qui restent sur place et qui sont saisis par le processus. Il me semble évident que les personnages de Beckett, ils vivent intensément ce qu'on pourrait appeler le processus. On peut pas, il me semble, on interprète très difficilement Beckett en termes de personne, de personnologie ou en termes de structure. C'est une affaire de processus, là aussi. Et bien, quelque chose tourne mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le processus tourne vraiment. Lui qui aurait dû, mais qu'est-ce que veut dire la formule, qui aurait dû être ligne de vie, c'est-à-dire de création, qui aurait dû être une espèce de chance supplémentaire donnée à la vie, il tourne en entreprise mortifère. Commence tué à deux. Une mort exaspérée à la manière de Claes. Ou bien une mort paisible. Il y a des morts paisibles. Qu'est-ce qui fait que Virginia Woolf s'enfonce dans son lac là, et se noie comme ça? Là, c'est pas du tout une mort exaspérée. D'une certaine manière, il y en a marre. Mais il y en a marre de quoi? Elle qui te met en effet un processus prodigieux. Qu'est-ce que ça? Alors, je dis. Sous les formes exaspérées, c'est comme ça, si vous voulez. Si j'essaie de donner un contenu concret, vécu, vivant, à la notion de fascisme, j'ai essayé de dire plusieurs fois à quel point pour moi le fascisme et le totalitarisme, ce n'était pas du tout la même chose. C'est que le fascisme, ça paraît un peu mystique ce que je dis, mais il me semble que ça ne l'est pas. Le fascisme, c'est typiquement un processus de fuite, une ligne de fuite, qui tourne alors immédiatement en ligne mortuaire, mort des autres et mort de soi-même. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les fascistes l'ont toujours dit. Le fascisme implique fondamentalement, contrairement au totalitarisme, l'idée d'un mouvement perpétuel, sans objet ni but. Mouvement perpétuel sans objet ni but, d'une certaine manière, c'est, on peut dire, c'est ça un processus. En effet, le processus est un mouvement qui n'a ni objet ni but. Il n'a qu'un seul objet, son propre accomplissement, c'est-à-dire l'émission des flux qui lui correspondent. Mais voilà qu'il y a fascisme lorsque ce mouvement sans but et sans objet devient mouvement de la pure destruction. Étant entendu quoi? Étant entendu que on fera mourir les autres et que sa propre mort couronnera celle des autres. Je veux dire, quand je dis ça paraît tout à fait mystique et ce que je dis là sur le fascisme, en fait les analyses concrètes, il me semble, le confirment très fort. Je veux dire, un des meilleurs livres sur le fascisme que j'ai déjà cité, qui est celui de Arendt, A-R-E-N-D-T, qui est une longue analyse, même des institutions fascistes, montre assez que le fascisme ne peut vivre que par une idée d'une espèce de mouvement qui se reproduit sans cesse et qui s'accélère. Au point que, dans l'histoire du fascisme, plus la guerre risque d'être perdue pour les fascistes, plus se fait l'exaspération et l'accélération de la guerre jusqu'au fameux dernier télégramme d'Hitler. qui ordonne la destruction de l'habitat et la destruction du peuple. Ça commencera par la mort des autres, mais il est entendu que viendra l'heure de notre propre mort. Et ça, les discours de Goebbels, dès le début, le disent. Alors, on peut toujours dire propagande, mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la propagande était orientée dans ce sens, dès le début. C'est complètement différent d'un régime totalitaire, là, à cet égard. Et une des raisons pour lesquelles, il me semble, une des raisons là, historiques importantes, c'est pourquoi est-ce qu'encore une fois les Américains, et même l'Europe, a pas fait une alliance avec le fascisme. On pouvait leur faire confiance, c'est pas la moralité ni le souci de la liberté qui les a entraînés. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont préféré s'allier à la Russie et au régime stalinien, dont on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un régime que l'on peut appeler totalitaire, mais c'est pas un régime de type fasciste, c'est très différent. C'est évidemment que le fascisme n'existe que par cette exaspération du mouvement et que cette exaspération du mouvement ne pouvait pas donner de garantie suffisante. Et la méfiance à l'égard du fascisme au niveau des gouvernements et au niveau des États qui ont fait l'alliance pendant la guerre, c'est, me semble, si vous voulez, c'est là où il y a toujours un fascisme potentiel, là, lorsque une ligne de fuite tourne en ligne de mort. Alors presque, c'est pour ça que vous comprenez la distinction que je ferai entre schizophrénie comme processus et schizophrène comme entité clinique. C'est que la schizophrénie comme processus, c'est l'ensemble de ces tracés de ligne de fuite. Mais la production de l'entité clinique, lorsque précisément quelque chose ne peut pas être tenu sur les lignes de fuite. Quelque chose est trop dur, quelque chose est trop dur pour moi. Et à ce moment-là, ça va tourner en ligne, soit en ligne d'abolition, soit en ligne de mort. Prenez une chose, une expérience vécue aussi simple que celle de la musique. La musique que vous écoutez. En quoi est-ce qu'on peut parler d'un fascisme potentiel dans la musique, si l'on peut parler d'un fascisme potentiel? C'est que... Il me semble que la musique, c'est le processus à l'état pur. C'est par là que tous les arts, ce serait sans doute l'art, il me semble, le plus adéquat, le plus immédiatement adéquat. Pour saisir sous la peinture, un processus de la peinture, il faut beaucoup plus d'efforts. C'est-à-dire les flux, saisir les flux de peinture, c'est beaucoup plus difficile de saisir immédiatement le flux sonore de la musique. Et là encore, je dirais, pour moi, la musique, c'est pas affaire de structure... Ni même de forme, hein. c'est affaire de processus. Tiens, je pense tout d'un coup, pour faire des rapprochements, que l'un des musiciens qui a le plus pensé la musique en termes de processus, c'est Cage. Bon, la musique, elle est processus, et d'une certaine manière, elle est amour de la vie, fondamentalement. Elle est même création de la vie. Or, est-ce que c'est par hasard que, en même temps, je dois dire le contradictoire, que la musique nous inspire à certains moments, et qu'il n'y a pas de musique qui ne nous inspire pas ça à certains moments. Un très bizarre désir, qu'il faut appeler un désir d'abolition, un désir d'extinction, sonore, une mort paisible. Et que dans l'expérience musicale la plus simple, hein, et là je privilégie pas telle musique sur telle autre, je pense que c'est vrai de toute musique, que c'est vrai de la pop musique, que c'est vrai de la musique classique, que c'est vrai que c'est les deux à la fois et l'un pris dans l'autre. Une création vitale sous forme de ligne de fuite ou sous forme de processus, et greffer là-dessus, risquant constamment de se convertir le processus, une espèce de désir d'abolition, de désir de mort, et que la musique emporte aussi bien ce désir de mort qu'elle le charrie le processus. Si bien qu'à ce niveau, c'est vraiment une partie très très incertaine que chacun de nous joue, même sans le savoir, parce que jamais personne n'est sûr que ce ne sera pas son tour de craquer, hein, qui peut le dire. Et encore une fois, il ne craquera pas sous de très forte secousse visible. Il craquera peut-être au moment où, d'un certain point de vue, ça va mieux. On ne sait pas. sais pas. Simplement, je dis que la psychiatrie et la psychanalyse, il me semble, ne rendent pas service. Chaque fois qu'ils proposent à ces phénomènes des interprétations qu'on peut appeler des interprétations puériles, ça déshonore les gens. Ça déshonore les gens. Mais sauf que les gens, ils sont contents, ils supportent d'écouter ça, c'est leur affaire, puisque ça marche, hein, c'est leur affaire. Mais je trouve que c'est être déshonoré que accepter d'entendre des heures et des heures. Il faut, du moins, il faut beaucoup souffrir pour le supporter. D'entendre pendant des heures et des heures tout ça, c'est parce que t'es pas d'accord avec ton père et ta mère. Tout ça, c'est parce que y a quelque chose qui s'est passé du côté du nom et du père. C'est parce que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes d'image de personne, encore une fois, personnologie ou structure, ça me paraît tellement, tellement semblable. Alors que, quand même, nous avons, il me semble, l'élémentaire dignité de tomber malade ou de devenir fou au besoin, sous de bien d'autres pressions et bien d'autres aventures que ça. Alors, voilà, oui. En sang, je réponds bien sûr, si j'ai bien compris la question, l'idée de la schizophrénie comme processus implique que ce processus côtoie sans cesse la production d'une espèce de victime du processus. On peut être à chaque instant victime d'un processus comportant soi. Et par processus, encore une fois, j'invoque, parce que là, ça devient un langage commun, ils nous appartiennent à tous. J'invoque de grands noms comme Kleist, Rimbaud, etc. Eh bien, Rimbaud, que dit de Rimbaud? Qu'est-ce que c'est cet homme? Il fout le camp en Éthiopie. C'est-à-dire, il prolonge sa ligne de fuite, mais il la prolonge de quelle manière? Là-dessus, cette espèce de reniement de tout son passé, c'est quelque chose qui n'est plus supportable pour lui. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'il devient? C'est sur cette ligne-là qu'il y a un véritable devenir, encore une fois. Alors, ce devenir, ça peut devenir aussi un devenir mortifère. Alors, s'il y a une leçon, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de débrouiller les lignes qui composent quelqu'un. Il s'agit, au niveau de chaque paquet de lignes qui composent quelqu'un, essayer, par n'importe quel moyen, que ça ne tourne pas en ligne de mort. C'est là. Or, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle. Je crois juste qu'il y a une espèce de complaisance qui est extrêmement redoutable. La complaisance au discours psychanalytique, c'est notre déshonneur. Ça supprime, il y a longtemps que le romancier Lawrence le disait, lui qui avait une espèce de réaction fraîche à la psychanalyse. Il disait, mais tout ça, c'est dégoûtant. Tout ça, c'est pas du tout... Laurent, vous comprenez, il est très fort, parce que c'est pas quelqu'un à qui l'on puisse dire « Ah, tu es choqué par la sexualité. » Il n'était pas très choqué par la sexualité. Il est même à la tête d'une espèce de découverte et de singulière découverte de la sexualité. Mais il a l'impression que la psychanalyse est dégoûtante.